Un fil suspendu, une goutte d'eau qui le suit pour s'écraser sur le sol et former une flaque, une médiatrice culturelle qui vous prévient du potentiel danger, c'est ce que vous pouviez voir en vous rendant en octobre 2016 à La Criée, centre d'art contemporain installé en plein centre-ville de Rennes. Cette œuvre s'appelle La coulée douce, elle est le fruit du travail de l'artiste tunisien Ismaïl Bari, une œuvre que nous pourrions qualifier de vivante, qui vit quand on la voit, mais l'expérience ou la performance s'arrête là. Il y aura certainement des photos, sans doute des vidéos ou des articles pour nous rappeler son existence, mais l'œuvre elle-même ne sera qu'un souvenir. Une telle œuvre pourrait-elle d'ailleurs exister dans un autre cadre que celui de La Criée? Est-elle ancrée dans un territoire comme c'est le cas de notre patrimoine matériel ou immatériel par exemple? Une chose est sûre, Rennes comme d'autres villes semble être tombée sous le charme de l'art contemporain et veut le montrer. Une biennale largement soutenue, la construction d'un frac monumental, bientôt une œuvre des frères Bouroulec au bord de la Vilaine, l'art contemporain se veut durable et visible dans la ville de demain. Se veut-il pour autant plus accessible ? Le passé, lui, n'est pas oublié, les archives de la critique d'art sont même conservées, étudiées et valorisées pour que la performance continue. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invitée du jour est Nathalie Boulouche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à Rennes 2 en histoire de l'art et en histoire de la photographie. Par ailleurs, directrice du groupement d'intérêt scientifique Les Archives de la Critique d'Art, vous répondrez aujourd'hui aux questions de mes camarades Xavier de Bontride. Bonjour Xavier.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar, bonjour Christian.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Pour la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne, Xavier, c'est à vous.
Eh bien Ronan, vous l'avez indiqué en lançant cette émission, on va parler aujourd'hui avec vous, Nathalie Boulouche, d'art contemporain. Et ma première question, c'est en lien direct avec la présence de cet art contemporain dans la ville. La maire de Rennes a annoncé il y a quelques semaines qu'elle allait accueillir une œuvre des frères Bouroulec dans l'espace public rennais dans quelques mois. Elle a insisté sur le caractère innovant de cette création. Et j'ai envie de vous demander, pour commencer à mieux comprendre ce sujet que nous allons essayer d'aborder sous toutes ses facettes durant une heure ensemble, eh bien, qu'est-ce que nous dit la place de l'art contemporain dans la ville? Est-ce que c'est un espace de jeu normal? Est-ce que c'est là qu'il s'épanouit le mieux ou pas?
Alors, est-ce que c'est là qu'il s'épanouit le mieux? Peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est une façon pour l'art contemporain d'entrer le plus rapidement et le plus facilement en connexion avec ses publics.
C'est là qu'il interpelle. Hein.
Voilà, donc j'insiste sur ses publics parce que...
Au pluriel.
Au pluriel, exactement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à très souvent voir l'art contemporain comme un art assez élitiste, assez difficile d'accès. Et je pense que justement, l'espace de la ville est peut-être le lieu dans lequel la rencontre peut se faire dans un premier lieu entre des publics non autorisés, si l'on peut dire, et cet art qui est en train de se faire et cet art qui s'ancre dans le contemporain, dans la société, et qui parle de la société dans laquelle on est à travers des œuvres qui... vont de fait s'adresser de façon très directe aux passants et donc engager un premier dialogue qui peut parfois être un dialogue de rejet, parce qu'il y a souvent eu aussi des débats autour...
Ou au moins d'incompréhension,
oui,
à
sinon
tout le monde.
De rejet, au moins d'incompréhension. Donc je pense qu'il a vraiment ce rôle-là d'interpeller, en tout cas, et tant mieux s'il suscite des réactions, qu'elles soient positives ou négatives.
Est-ce que c'est pas ça, finalement, son but ultime, de nous faire réagir, nous, le public, par rapport à des propositions qui déconcertent souvent? Est-ce qu'il y a une tentative de définition? J'aimerais connaître la vôtre. Quand on parle d'art contemporain, qu'est-ce qu'on y met derrière ces deux termes, art et contemporain?
Contemporain, je pense que ce qui est important, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que c'est l'art du temps dans lequel nous sommes. Et donc c'est l'art qui nous parle, qui s'adresse à un public qui est en phase avec la société dans laquelle se développe cet art. Donc je crois que le rôle des artistes, il est essentiel aujourd'hui. Ils nous disent
quelque chose du monde dans lequel nous sommes.
Oui, ils nous disent quelque chose du monde dans lequel nous sommes, et donc il y a une dimension politique qui est aussi très forte. Et je pense, enfin, Je me suis fait une réflexion très récemment avec l'élection de Trump aux États-Unis en me disant c'est absolument catastrophique, mais malheureusement, il risque d'en sortir des œuvres d'une très très grande force. Et on le voit, c'est souvent aussi dans des contextes
politiques. Il y aura une riposte artistique.
Oui, il y aura assurément une riposte des artistes. Et malheureusement, on l'a constaté très souvent, les œuvres d'art contemporain ont cette force de protester contre des situations. Et donc, il y a souvent une dimension politique très forte de l'art contemporain.
Vous avez des exemples en tête, peut-être, pour illustrer ce propos ? Quand vous affirmez cela, vous pensez à quel type d'œuvre, par exemple ?
Dans l'histoire, hein, il y a eu, par exemple, pendant les montées des fascismes, les artistes, comme par exemple les artistes surréalistes, ont développé un travail plastique qui était un travail de dénonciation d'un contexte politique. Les surréalistes ont produit des œuvres qui anticipaient déjà
qui annonçaient le monde qui venait,
qui sentaient l'arrivée du fascisme, la montée des fascismes en Europe. Ou un artiste comme l'artiste dadaïste John Hartfield, qui avait d'ailleurs changé son nom, qui avait américanisé son nom par provocation justement vis-à-vis de la République de Weimar dans laquelle il travaillait, a réalisé des photos montage qui était extrêmement violent pendant justement pour dénoncer l'arrivée d'Hitler au pouvoir et qui disait il faut utiliser l'image comme une arme et il faisait des photomontages, donc il découpait des images dans des magazines. Ses outils d'artiste étaient la colle et les ciseaux donc il réalisait des images extrêmement fortes, mais qui étaient compréhensibles par n'importe qui, c'est-à-dire que la puissance visuelle du message était suffisante sans qu'il n'y ait aucun besoin d'une explication quelle qu'elle soit. Et ces photomontages, d'ailleurs, étaient publiés très souvent dans des revues pour les ouvriers. Donc il y avait vraiment cette force du montage. Les constructivistes russes, qui ont accompagné la révolution russe, ont fait la même chose. Donc voilà, j'ai pris des exemples un peu historiques, mais évidemment, dans les périodes plus récentes, on trouve les mêmes choses.
L'image du Reichstag incendié, l'Allemand John Hartfield l'avait déjà utilisée dans un photomontage 60 ans plus tôt, pour dénoncer la montée du fascisme en Allemagne. Adolf, Superman, mange de l'or et crash de l'État.
Art contemporain et politique, on est déjà au cœur du sujet. Voilà qui va vous intéresser, Christian Lebart, de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne.
Oui, on est au cœur des tensions, des ambivalences éventuellement de l'art contemporain à travers cet échange. Pour poursuivre un petit peu l'efficacité politique de l'art, effectivement il y a plein d'exemples dans l'histoire, Guernica, etc. Est-elle compatible avec certain hermétisme qui est souvent associé à l'art contemporain aujourd'hui? Et dire ça, c'est aussi poser la question de la fonction de la critique d'art. Alors j'y arrive parce que vous êtes aussi directrice des archives de la critique d'art, qui est une institution peut-être dont on va parler, mais quel est le rôle de la critique? Est-ce que le critique est un filtre, un médiateur? Est-ce qu'il a pour fonction de traduire? Est-ce qu'il a pour fonction de faire connaître? Est-ce qu'il a pour fonction d'expliciter? Je sais que c'est pas la bonne réponse, mais je mets les pieds dans le plat, d'expliciter ce qui serait un message politique. Ou au fond, est-ce qu'on ne peut pas revenir à l'idée que l'œuvre doit avoir cette transparence minimale de telle sorte que le critique ne sert à rien ou est superflu par rapport à ce qui serait une communication directe entre une œuvre et moi qui passe dans la rue et qui la voit et qui n'a pas besoin qu'on me l'explique. Comment ce triangle se construit?
Alors beaucoup de questions. Alors Nathalie Boulouche, éclairez-nous sur ces différentes facettes de l'art contemporain que vient d'aborder Christian Lebart.
Alors je crois qu'effectivement, il fallait introduire la figure du critique et elle est tout à fait bienvenue. Alors le critique, je crois qu'il a, comme vous le disiez, cette fonction de médiateur. C'est vraiment le premier intermédiaire entre la production de l'artiste, donc qui est l'œuvre, et les publics. Il a ce rôle de médiateur qui est essentiel, et c'est un médiateur qui est aussi un interprète. Donc c'est quelqu'un qui va accompagner finalement l'artiste et qui va presque l'accompagner dans l'explicitation de sa démarche. Et parfois, un artiste découvre à travers l'exercice de la critique le déploiement finalement des potentialités d'une œuvre qu'il n'a parfois même pas imaginée. Donc il y a cette fonction-là. Qui est essentiel. Après, pour aborder l'autre aspect, une œuvre, elle doit pouvoir exister dans un dialogue direct avec le public, mais le critique a ce rôle qui vient apporter des éléments de compréhension complémentaires, et il est aussi, dans un autre aspect de son activité, un évaluateur de l'œuvre. C'est-à-dire que très souvent...
Évaluateur au sens évaluation financière de sa valeur ?
Non, pas l'évaluation financière, mais l'évaluateur de la valeur symbolique de l'œuvre, qui ensuite peut devenir aussi une valeur plus mercantile.
Sur le marché de l'art.
Exactement, puisque le critique va jouer aussi ce rôle de médiateur, mais d'intermédiaire, qui fait émerger le travail de certains artistes, et le relais est ensuite pris par d'autres acteurs de l'art, qui sont aussi effectivement les galeristes, les marchands, les conservateurs de musées, qui vont intervenir à un moment donné dans cette chaîne complexe qui se tisse à partir de la création.
Alors justement, vous évoquez cette chaîne complexe, vue du spectateur lambda, du public le plus basique qu'il soit. Cette chaîne-là, elle est un petit peu codée, elle est parfois hermétique, je reprends l'expression employée à l'instant par Christian Lebart. Est-ce que c'est indissociable de l'art contemporain ? Est-ce que justement il faut qu'il y ait tous ces acteurs, tous ces intermédiaires, j'allais dire toute cette expertise de sachants pour permettre au commun des mortels d'appréhender, de toucher du doigt la réalité du geste artistique qui est ainsi à l'œuvre ?
Parce qu'elle nous apparaît aujourd'hui comme étant indissociable de l'art contemporain, mais... tout art de son époque, et on pourrait dire la même chose de l'art de la Renaissance ou de l'art de l'époque des Lumières ou du XVIIIe siècle, tout art à son époque n'a été accessible qu'à une frange.
L'art en train de se faire, oui. N'est pas compréhensible immédiatement, c'est ça.
Il y a toujours besoin d'une interprétation pour aller jusqu'au fond de la compréhension des œuvres. Et le critique est cet acteur essentiel, justement, qui permet d'aller plus loin dans l'expérience qu'on peut avoir des œuvres.
Comment alors, on devient critique hein ? Excusez-moi, Christian, je vous laisse poser votre question.
Dans cette tension entre la dimension esthétique et puis alors la dimension de commande publique, éventuellement on y reviendra, les mécènes ou les acteurs publics aujourd'hui, et puis dans cette dimension de marché économique auquel vous faisiez allusion, est-ce qu'il n'y a pas des tensions un peu spécifiques à la période contemporaine ? Je veux dire par là que le marché de l'art s'est emballé de telle sorte que, par exemple, on lit beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a aujourd'hui une déconnexion entre la valeur concédée par le marché et la valeur concédée par la critique. C'est-à-dire il y a des artistes internationaux qui sont super cotés en termes financiers, qui donnent lieu à des placements tout simplement, et qui ne sont pas forcément très cotés par la critique. Est-ce que c'est pas une des singularités de notre époque,
alors
cette déconnexion ?
Effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est une des singularités de l'époque où... voilà, il y a cette importance qui est celle du marché de l'art, qui est aujourd'hui un marché complètement mondialisé et qui fait qu'en effet, il y a une spéculation très forte qui amène à des disjonctions énormes entre la valeur de certaines œuvres et la valeur accordée par la critique. Oui, donc ça, en effet, c'est, je pense, un
c'est plus
fait
la critique
d'époque.
Qui fait la valeur de l'œuvre, en fait.
Pas toujours. Ouais.
Dans son lancement de notre émission, Renan évoquait cette œuvre éphémère, cette performance qui avait été présentée il y a quelques mois à la Criée. Est-ce qu'effectivement, on a affaire à de plus en plus à des œuvres, j'allais dire, presque immatérielles ? Comment évolue la perception ? Je pense notamment à l'apport du numérique dans cette créativité-là aussi.
Alors, les œuvres immatérielles, comme vous dites, on les a appelées dématérialisées à partir de la fin des années 60. Donc ça, c'est vraiment une évolution, effectivement, de la seconde moitié du XXe siècle, où on voit de plus en plus des pratiques qu'on qualifiera d'éphémères, hein, qui vont se développer. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose dont on voit effectivement qu'aujourd'hui, c'est sans cesse revisité, et en effet, en particulier, les pratiques qui relèvent des arts de la performance sont extrêmement présentes et sans cesse revisitées. Il y avait un article dans Le Monde récemment qui faisait un focus sur
Point Cheval.
Non, pas sur Point Cheval, un article plus générique, plus général sur la performance. Donc la performance, en l'occurrence, qui justement a une dimension souvent très très politique, qui a été l'une des pratiques largement investies par les femmes, et ça dès la fin des années 60, hein, la performance a été une des pratiques féministes qui a vraiment été investie par ces femmes qui étaient souvent reléguées au second plan dans un milieu artistique extrêmement masculin. Donc la performance, elle est très très vivante aujourd'hui encore, et elle existe aussi beaucoup maintenant dans des liens qui se tissent entre autres avec les pratiques chorégraphiques. On en a un très bel exemple à Rennes avec l'activité du musée de la danse, où là il y a vraiment tout un travail qui est mené justement sur cette articulation entre performance et pratique chorégraphique. Donc ces pratiques éphémères qui souvent se développent aussi dans l'espace public, elles sont effectivement très repérables aujourd'hui. J'ai un peu oublié le début de votre question.
Non, c'était vous y répondez bien sur cette évolution justement des formes artistiques contemporaines qui empruntent à la plastique traditionnelle, mais aussi à une dématérialisation que les nouvelles technologies numériques permettent d'ailleurs de renforcer.
Et c'est vrai que là, on retrouve aussi ce lien très fort qui se tisse avec les publics, parce que la performance est justement établit ce lien émotionnel très fort avec les publics. Et donc, on assiste aussi à des choses souvent passionnantes.
Au prix d'une certaine déconstruction de la notion d'œuvre.
Oui,
mais... L'œuvre classique, celle qu'on trouve dans un musée.
Là aussi, depuis les années 60, on a cessé de déconstruire...
On sort du cadre, sans mauvais jeu de mots.
De déconstruire effectivement la définition de l'œuvre au sens plus traditionnel. The Dream.
Est la première exposition du nouveau cycle de la Criée autour du récit. Avec cette exposition, nous souhaitons donner à voir la multiplicité et la polyphonie des formes du récit. Tout récit est une transmission. Nous avons donc invité, parmi les 13 artistes, plusieurs figures légendaires, dont les œuvres et les actions se diffusent et se racontent d'une génération à l'autre.
Alors, il y a une actualité à laquelle on pourra faire écho dans cette émission, c'est la tenue du 22 au 24 mars prochain d'un colloque à Rennes qui va s'intituler « Création artistique et territoire ». Il est organisé par la Maison des sciences de l'homme en Bretagne avec le concours de nombreux spécialistes, notamment de Rennes 2. Vous êtes directement investi, je crois, aussi dans ce programme. La proposition, le pitch, on dirait, c'est d'interroger justement... le lien entre un territoire et cette facilité ou cette capacité à créer de l'art et de l'art contemporain, puisqu'on parle de notre époque. Est-ce que de ce point de vue, Rennes, puisque nous y sommes, a une résonance particulière avec la créativité de l'art contemporain ou pas ? Comment est-ce que cette intensité varie selon les endroits où on se trouve ? Finalement, c'est ça la question.
Alors, je pense que l'art contemporain, il est vivant partout sur le territoire français, mais c'est vrai que en Bretagne, si on fait un peu ce focus, en Bretagne, on peut voir que effectivement on a une région qui est très dynamique, aussi bien d'un point de vue institutionnel et bon le petit jingle de départ le rappelait, hein, on en par exemple, la construction effectivement d'un frac qu'on appelle les fracs seconde génération, hein, qui sont des fracs avec un bâtiment donc qui permet une
qui est lui-même une présentation, d'une certaine manière une œuvre d'art en tout cas qui interpelle dans le paysage,
qui a effectivement été réalisé par une architecte Olive Deck, qui a été évidemment choisie aussi pour ce qu'elle pouvait proposer en termes effectivement de de réalisation architecturale. Donc le FRAC qui est un peu le phare finalement autour duquel se constitue l'activité régionale de l'art contemporain et la mission première des FRAC.
Fonds régional d'art contemporain.
Fonds régional d'art contemporain qui était justement de diffuser l'art contemporain dans les régions. À la création dans les années 80. Donc il est vraiment ce lieu qui diffuse en permanence. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le phare de la région. Mais après, on a cette présence aussi de beaucoup de structures dévolues à l'art contemporain. Qui à Rennes sont la Criée par exemple, mais aussi 40 mètres cubes, hein, qui a une réelle activité.
C'est une galerie en quelque sorte.
Oui, qui est un centre d'expérimentation et qui a vraiment qui a vraiment cette activité justement de proposer des interventions dans la ville en partenariat avec diverses structures. Donc une vraie force de proposition aussi pour la diffusion de l'art contemporain. Plus largement au niveau de la Bretagne, je vais être obligée de parler au passé. Nous avions des structures qui étaient des centres d'art, qui malheureusement pour
des raisons financières,
des raisons plus politiques que financières, ont malheureusement disparu. Je pense il y a quelques années déjà le centre de Kerguéhennec dans le Morbihan qui a fermé, qui maintenant réexiste sous une autre forme, mais la forme initiale a fermé. Plus récemment, dans l'actualité, la galerie du Dourven dans les Côtes d'Armor, le centre d'art du quartier à Quimper, qui sont des structures qui étaient dévolues à la diffusion de l'art contemporain, avec, ce qui me paraît tout à fait important par rapport à ce qu'on disait au début de l'émission, une attention très importante envers la médiation envers les publics, et en particulier pour la galerie du Dourven, une médiation envers les publics scolaires. Ces structures ont dû fermer récemment, ce qui fragilise beaucoup justement
elles étaient portées par le conseil départemental, si
oui,
ma mémoire est bonne.
Oui, il y avait effectivement plusieurs partenaires. Mais donc, ce qui faisait la force, je crois, de la Bretagne est fragilisé par ces événements récents. Donc j'espère que les politiques sauront prendre la mesure aussi de cette fragilité qui se crée que l'hémorragie, si sans vouloir être dans une vision dramatique, va se stopper. Et le rôle des archives de la critique d'art a été justement d'intervenir dans ce contexte, puisque nous avons joué un peu aux pompiers et nous avons récupéré les archives de ces diverses structures qui ont fermé.
Alors justement, donc, vous pouvez peut-être profiter de ce moment dans notre émission pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est cette initiative, j'ai lu quelque part, unique en Europe, des archives, voilà, je vais y arriver, des archives de la critique d'art, chaque mot compte hein, dans cet intitulé.
Alors, on peut dire que c'est une structure ressource pour l'art contemporain, en Bretagne en premier lieu, mais bien au-delà, puisque on a beaucoup de chercheurs internationaux qui viennent à Rennes pour consulter ces ressources. Alors, archives de la critique d'art, les mots comptent, vous le disiez, tout d'abord archives, parce que... À la fin des années 80, et c'est un petit peu l'histoire hein, de la création de cette structure.
89, hein, la création, c'est
alors,
ça.
Alors, la création en 89, cette création, elle est le fait de quelques acteurs, dont certains, et en particulier Jean-Marc Poinceau, qui était enseignant à l'université Rennes 2, était donc installé en Bretagne. Ces acteurs faisaient partie d'une association qui existe toujours, qui est l'Association internationale des critiques d'art, qui, elle, a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, sous l'égide de l'UNESCO. C'est une association internationale qui regroupe aujourd'hui plus de 4500 membres. Et à la fin des années 80, la section française de cette association a rendu manifeste les risques qu'il y avait à ce que des documents accumulés par les archives dans le cadre de leur activité professionnelle viennent à disparaître. Il y a eu un événement en fait qui a semé un petit peu le questionnement, qui était le fait que les archives d'un critique qui s'appelait Charles Estienne allait être acheté par le Getty, la Getty Foundation de Los Angeles, donc il y a une énorme collection d'archives. Et donc il y avait cette crainte que beaucoup de documents comme
soit
ça
dispersés.
Soient dispersés et soient vendus, et donc on ait une perte finalement de toute une mémoire. D'où cette idée de trouver un lieu dans lequel seraient rassemblés ces documents.
Un lieu physique,
Et donc un lieu physique dans lequel seraient rassemblés ces documents qui constitueraient une archive.
Et pourquoi à Rennes alors ?
Alors, pourquoi à Rennes ? Tout simplement parce que Jean-Marc Poinceau, comme je le disais, était enseignant à l'Université Rennes 2. Il a eu la force de conviction auprès des politiques, aussi bien nationaux que régionaux et plus locaux, qu'on pouvait créer ce lieu. Et donc, ce lieu a été installé tout d'abord à Château-Giron, en périphérie de Rennes.
Là où se trouvait le FRAC, autrefois.
Là où se trouvait le bâtiment du FRAC, et les deux institutions étaient associées. Et ensuite, en 2011, la construction du nouveau bâtiment du FRAC a amené aussi les archives à migrer vers Rennes. Et désormais, donc, depuis 2011, elles sont installées dans des locaux à Rennes, qui sont des locaux qui appartiennent à l'université Rennes 2.
Christian Lebart, une question pour vous.
Oui, donc vous êtes la directrice de ce qui est devenu un groupement d'intérêt scientifique. Pour les néophytes dont je fais partie, est-ce que vous pourriez éclairer un petit peu ce qu'est au fond le monde des critiques d'art en tant qu'il n'est pas le monde des artistes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une porosité entre les deux ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont l'un et l'autre ? J'imagine que oui. Ou est-ce que vraiment ce sont deux univers qui se complètent, qui se fréquentent, mais qui restent...
Ou qui se détestent,
qui restent distincts ? Quels sont les... Comment ça s'articule, ces deux mondes ?
Alors, ces deux mondes qui s'articulent de façon très étroite, on a assez peu de cas où artistes et critiques, où un artiste est critique ou un critique artiste.
Pourtant, les grands noms de l'art contemporain, au XXe siècle, ont beaucoup écrit, ont beaucoup laissé de textes sur ce qu'ils faisaient, etc.
Oui, mais les écrits d'artistes ne sont pas les écrits de critiques. Par contre, on a quelques artistes qui ont développé une activité critique. Je pense en particulier à ce qu'on appelait la critique institutionnelle, comme Andrea Fraser, par exemple, qui sont des artistes qui ont vraiment essayé de développer une pratique qui s'inspire finalement de la dimension critique. Mais c'est pour moi, plutôt des acteurs qui sont très proches, qui travaillent ensemble, mais chacun...
C'est un vrai métier, critique d'art.
C'est un vrai métier.
Comment en vit-on, justement ?
C'est un métier de journaliste.
Voilà.
Donc,
il faut publier dans des revues.
Le critique d'art a une activité effectivement de publication, alors dans la presse. Au XIXe siècle, on utilise plutôt le terme de littérateur d'art ou d'écrivain d'art pour le critique, qui est souvent celui qui écrit dans la presse, qui commente. Et Diderot, qui était l'un des premiers critiques, commentait les salons, par exemple. Donc il y a cette activité d'écriture de textes qui sont publiés dans divers supports, dont les supports comme la presse, des magazines spécialisés. Mais aussi, le critique trouve à exercer sa plume pour des catalogues d'exposition dans des galeries. Le lien critique et galeriste est extrêmement fort cette périphérie de l'artiste et de son œuvre. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de critiques qui diffusent leur travail à travers des textes publiés dans les catalogues de galeries. Et un phénomène donc qui est plus récent, c'est cette activité que vous mentionniez tout à l'heure, qui est aussi très souvent qu'aujourd'hui les critiques sont aussi des commissaires d'exposition. Et donc là, on a cette double activité qui se tisse du critique commissaire d'exposition.
Eh bien, je vous propose qu'on en reparle et qu'on explore justement le métier de critique, ses évolutions, le rôle essentiel des commissaires d'exposition que l'on ne connaît pas forcément très bien. Grâce à vous, Nathalie Boulouche, on va en savoir davantage dans quelques instants. Mais avant cela, on fait une petite pause musicale. Nous allons écouter les Métamorphoses du Vide. C'est le groupe Chapelier Fou. Il y a un jeu de mots hein, dans ce titre, Christian Lebart, je crois, vous qui êtes très érudit.
Oui, les Métamorphoses d'Ovide sont devenues les Métamorphoses du Vide.
Eh bien, on les écoute tout de suite.
Chapelier Fou, les Métamorphoses du Vide à l'instant dans Chercheurs en Ville consacré en ce mois de février à l'art contemporain. Quels objectifs, quelles critiques, quelle implantation sur le territoire? Dans la première partie de l'émission, notre invité nous a donné une définition de ce qui, pour beaucoup, reste encore abstrait. L'art contemporain serait donc l'art du temps dans lequel nous nous trouvons, un art qui serait, malgré les controverses, en phase avec son public immédiat et donc avec les problématiques du monde d'aujourd'hui. Un art qui aurait également une dimension politique, on va revenir dessus dans un instant, une dimension financière également, avec des œuvres évaluées parfois à des sommes qui font elles aussi grincer des dents. Notre invitée du jour est Nathalie Boulouche, enseignante-chercheure à Rennes 2 et directrice des archives de la critique d'art. Elle répond aux questions de Xavier Debontry et de Christian Lebart.
Alors avant que nous n'écoutions le morceau de Chapelier Fou, Nathalie Boulouche, vous évoquiez, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, la figure du commissaire d'exposition qui est souvent d'ailleurs lui-même un critique d'art. Qu'est-ce que c'est qu'un commissaire d'exposition? Est-ce que vous pouvez nous définir ce que recouvre ce métier? Est-ce que c'est un métier d'ailleurs? Oui, quand même.
Oui, oui, c'est un métier. On a des commissaires indépendants. Alors, c'est un autre médiateur de l'art. C'est pour ça que voilà.
La frontière est ténue.
On voit de plus en plus effectivement dans la jeune génération des critiques d'art qui ont aussi cette fonction de commissaire. Donc c'est une autre façon de rendre accessibles les œuvres en pensant une exposition. Donc voilà, comment on va construire un propos à partir...
Il y a une intention souvent, hein, c'est ça, il y a une idée qui est déclinée ensuite. La Biennale d'art contemporain à Rennes a donné l'occasion d'avoir ce dialogue-là. Mm-hmm. Au début, c'est peut-être un peu hermétique d'ailleurs pour les novices dont je suis, mais il y a tout un travail de pédagogie.
Oui, alors effectivement, il y a une idée qui peut être soit une idée assez conceptuelle, soit une thématique, soit on peut aussi faire une exposition sur le travail d'un seul artiste. Mais en tout cas, voilà, c'est celui qui va mettre en forme, qui va rendre accessible des œuvres qui vont être organisées dans un espace. Et la notion d'exposition, elle est essentielle. C'est-à-dire que le travail du commissaire va vraiment être de construire un discours et de faire en sorte que ce discours intellectuel va trouver à s'incarner dans le choix d'un certain nombre d'œuvres, et ces œuvres elles-mêmes vont être inscrites dans un espace qui va amener à le visiteur à suivre un parcours. Et c'est vraiment cette articulation du discours et du parcours devant les œuvres et au sein des œuvres qui crée l'exposition. Donc c'est vraiment un travail d'écriture, mais qui est une écriture qui s'exprime aussi dans l'espace et pas seulement sur le papier. Donc du coup, cette activité du critique qui migre vers celle de la pratique de commissaire d'exposition, elle se comprend complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire on expose des idées, mais ces idées, cette fois, elles prennent corps dans des œuvres qui sont mises dans un espace.
Christian Lebarthe.
Ce qui veut dire que la critique d'art n'est plus seulement cette institution qui arrive après coup, après l'œuvre, pour la commenter, pour l'interpréter, la valider, mais il accompagne au fond.
Alors elle accompagne, mais l'exposition est une autre façon d'interpréter les œuvres.
Tout à fait. Oui.
Mais... C'est de les faire rentrer en résonance aussi entre elles.
Exactement, de créer des liens, et pas seulement par le discours, mais aussi par le rapprochement de certaines œuvres qui va faire sens par lui-même.
Alors je rappelle que vous êtes maître de conférence à Rennes 2, du coup ma question, est-ce que ça s'apprend ce métier de commissaire d'exposition? Il y a des écoles pour ça?
Oui, il y en a même à Rennes.
Ah ben voilà.
Donc oui, évidemment, ça s'apprend. Alors on peut ne pas l'apprendre aussi et le faire...
sur le tas, comme on dit. Éclairé.
Mais oui, il y a des formations qu'on appelle de façon très érudite des formations curatoriales. Donc il y a plusieurs formations en France qui, pour certaines, existent depuis longtemps. Je pense par exemple à ce qu'on appelait l'école du magasin à Grenoble, qui a été créée dans les années 80, qui était une première école de formation curatoriale, qui vient d'ailleurs d'arrêter son activité sur ce volet. Mais ensuite, d'autres formations se sont créées, et en l'occurrence, à Rennes, à l'initiative de Jean-Marc Poinceau, dont nous avons déjà parlé.
Encore lui.
Dès la fin des années 80, et donc de façon très, très, très liée finalement à la création des archives, a été créée à Rennes une formation au sein du département d'histoire de l'art, qui est une formation... En étude curatoriale, qui ensuite est devenue, et ça existe toujours aujourd'hui sous cette forme, un master à finalité professionnelle, qui est le master intitulé Métier art de l'exposition. Donc qui forme justement des jeunes étudiants au métier de commissaire d'exposition, et certains de ces étudiants qui sortent de cette formation vont ensuite avoir une activité de commissaire indépendant, mais aussi pour certains de critique d'art. Donc c'est vraiment cette expérience qui se développe. Donc Rennes est l'un des lieux en France, il y en a également à Paris et ailleurs, mais voilà, Rennes reste l'un des lieux où il y a effectivement cette formation curatoriale.
Qui nous permet de refaire un petit lien avec cette thématique de création artistique et de territoire, hein, dont nous parlions à travers le colloque qui aura lieu dans quelques semaines. Christian Lebarthe, vous souhaitiez approfondir ce thème, je crois.
Oui, revenir peut-être à la question du territoire, c'est le titre du colloque, hein, art contemporain et territoire. On a commencé à en parler tout à l'heure, la réponse spontanée qu'on fait, c'est au fond une réponse par les institutions, c'est-à-dire ce qui territorialise le plus spontanément l'art contemporain, c'est l'accompagnement institutionnel. On a parlé des FRAC, on a parlé de la région, on a parlé des villes, etc. Ma question, elle porte sur le... au fond, la pratique des artistes eux-mêmes. Tout circule aujourd'hui. On a parlé d'art numérique tout à l'heure. Il y a une mondialisation du marché de l'art, ou en tout cas une internationalisation. Dans leur métier, dans leur source d'inspiration, etc., est-ce que les artistes sont encore, est-ce qu'il y a des écoles régionales, comme il y a pu y avoir une, je sais pas, une école de Pont-Aven, etc. Donc à une époque où vraiment l'esprit du lieu pesait très fort sur, encore que, enfin, les artistes circulaient, ils circulaient plus longtemps, mais où il y avait quand même de temps en temps des logiques liées tout simplement au fait de travailler ensemble sur un même endroit. Est-ce que ça a complètement disparu ou voilà, est-ce qu'il y a vraiment aussi une mondialisation de l'esthétique, quoi?
Alors c'est vrai que dans l'histoire, on a en Bretagne effectivement cet exemple très fort de l'école de Pont-Aven, donc la dimension régionale d'une production artistique, elle a existé. Je crois qu'aujourd'hui, on peut plus du tout voir les choses comme ça, même s'il peut y avoir parfois un souhait de certains à se réancrer dans ces régionalismes, je pense que voilà, les artistes se déplacent et ils repensent complètement la définition des territoires. C'est-à-dire que le territoire, aujourd'hui, dans le travail des artistes, en tout cas de ceux qui, pour moi, font des œuvres qui ont un sens, n'est plus du tout simplement ancré dans un territoire au sens géographique du terme, mais il existe dans des territoires qui outrepassent la géographie, qui sont effectivement des territoires beaucoup plus symboliques.
Des territoires sensibles ?
Des territoires sensibles, des territoires.
Vous avez quelques exemples pour nous éclairer ? À qui pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des œuvres particulières qui seraient en résonance entre différents endroits, différents lieux, et qui en même temps diraient la même chose ? En tout cas, tiendraient un discours cohérent. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent spontanément ? C'est pas
non,
facile comme question.
Non, c'est pas facile. Non, j'ai pas. Non, là, je peux pas.
Est-ce que, pour en revenir à eux, puisqu'on a prononcé leur nom au début de cette émission, est-ce que les frères Bouroulec, dont on connaît la créativité véritablement internationale, avec des expositions qui se déroulent un petit peu partout dans le monde, et en même temps, on sent bien qu'il y a un ancrage, un attachement à leurs racines personnelles, ils arrivent à faire ce lien entre une approche très très mondiale et puis un écho particulier ou une sensibilité particulière portée au lieu où ils exercent leur art. À Rennes, par exemple, quand ils viendront dans quelques mois après l'exposition qu'ils ont faite l'année dernière. Ça, est-ce que c'est pertinent ou pas du tout ? Vous allez peut-être me dire que je suis complètement à côté de la plaque et vous auriez, si c'est le cas, raison de le faire.
Je pense que tout artiste peut puiser dans des références qui sont liées à sa propre histoire et donc à un ancrage qui peut évidemment toujours prendre source dans un lieu. Après, je pense pas que les frères Bouroulec, au-delà du fait que leur nom même porte une référence bretonne et que politiquement, je pense que voilà, il y a aussi une façon de prendre appui sur la dimension internationale justement qu'ils ont aujourd'hui. Mais pour une municipalité comme Rennes, voilà, de jouer aussi sur le fait que ces deux frères designers effectivement ont une reconnaissance internationale aujourd'hui, mais en même temps de rejouer l'ancrage plus municipal ou régional qui finalement sert aussi une dimension.
C'est un joli coup pour Rennes finalement.
On peut le dire comme ça, oui.
Trois lieux, quatre événements. Les petits génies du design français, les frères Bouroulec, ont investi la ville de Rennes, au Frac de Bretagne pour une rétrospective, au Champ Libre et dans la cour du Parlement de Bretagne. C'est à la fin des années 90 que Ronan et Erwan Bouroulec se font connaître avec des objets à mi-chemin entre le mobilier et l'architecture. Parmi leurs best-sellers, les algues vendues à près de 9 millions d'exemplaires, le canapé plume ou encore le lit clos, aujourd'hui totalement culte dans le milieu.
Christian.
Alors, dans le colloque, il y a des plasticiens, des spécialistes d'art plastique, etc. Mais il y a aussi des écrivains et il y a aussi une dimension littéraire. Et il me semble que la comparaison est intéressante de ce point de vue-là parce que les écrivains, ils ont quand même un rapport au territoire qui est aussi lié au choix d'une langue. Voilà, ils sont condamnés à utiliser une langue et une langue, c'est forcément une référence territorialisée. Je ne sais pas quel statut on pourrait donner à la musique, par exemple, mais j'ai un peu l'impression que les arts plastiques sont ceux, voilà, c'est là que la déterritorialisation, pour utiliser un grand mot, est la plus manifeste, la plus forte, je pense.
C'est plus universel, c'est ça que vous souhaitez
Après, il faut faire attention parce que bon, les artistes de la Renaissance circulaient d'une cité à l'autre, se pensaient sans doute à la fois comme comme universels, au moins dans leur référence chrétienne, et probablement très très, enfin, leur territoire ne cessait de se rappeler à eux à travers des façons de peindre et même des paysages, des choses comme ça. Donc, c'est toujours très difficile à trancher, surtout dans le feu de l'action.
En tout cas, par rapport effectivement aux écrivains qui se rattachent nécessairement à l'usage d'une langue qui les ancre dans un territoire de façon peut-être plus évidente, voilà, l'art est un langage universel.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi le rôle des critiques que de fabriquer des écoles, que de rapprocher des artistes, que de mettre ensemble des gens qui ne se connaissent pas forcément pour dire au fond des artistes qui ne se connaissaient pas entre eux mais qui sont les produits des mêmes conditions de possibilité, comme on dit en sciences sociales, finissent par faire des choses que moi, rétrospectivement, je vais appeler le naturalisme, le réalisme, le romantisme, etc.
Alors, c'est l'un des rôles, effectivement, des critiques que d'avoir ce recul qui va faire qu'on va tisser des liens. Voilà, ce rapprochement qui peut se faire à travers des productions qui émanent effectivement de différents espaces géographiques et qui parlent de la même chose. Et le rôle du critique, effectivement, peut être de faire se confronter ces œuvres. Alors, historiquement, souvent, en effet, pour rassembler des pratiques autour de cette notion d'école ou de mouvement, aujourd'hui...
Vous ne semblez pas convaincu par ces notions pour décrire la période contemporaine.
Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, la notion d'école, de mouvement, elle est assez délétère et
pourquoi voilà,
on est ben parce que les artistes sont beaucoup plus rassemblés autour de concepts ou de notions que autour de cette idée d'école ou de mouvement qui referme justement sur des périmètres beaucoup plus limités.
Il n'y a plus de manifeste, par exemple.
La pratique du manifeste, effectivement...
Il faut peut-être la définir, cette pratique.
Oui, donc l'écriture de manifeste qui a marqué beaucoup l'art du XXe siècle et surtout dans sa première moitié, enfin, jusque dans les années 70, était vraiment par la publication d'un texte, de rendre public une démarche d'artistes qui étaient soit à titre individuel, soit des artistes regroupés et parmi justement les exemples les plus récents,
les plus
ou en tout cas les plus manifestes, on a le rôle de Pierre Restany qui a été le critique qui a été associé à ce qu'on appelait le nouveau réalisme, dont l'une des figures était Yves Klein. Pierre Restany, en tant que critique, a joué ce rôle de rassembler autour d'Yves Klein un groupe d'artistes qui ont été qualifiés de nouveaux réalistes. Et c'est ce critique Pierre Restany qui a véritablement écrit, rédigé un texte qui avait valeur de manifeste pour définir ce groupe d'artistes pour lequel il a beaucoup écrit et qu'il a beaucoup défendu. Et comme par hasard, les archives de Pierre Restany sont conservées aux archives de la critique d'art. Il a été le premier critique donateur dès le tout début des années 90 pour constituer la collection des archives de la critique d'art.
Déambuler dans les grands appartements du roi et tomber sur un chien qu'on croirait fabriqué en ballon gonflable, certes, le choc est certain.
Le Golden Dogs à Versailles, ça peut paraître scandaleux. C'était d'ailleurs une des premières fois où Versailles s'ouvrait à l'art contemporain. Donc on peut dire qu'il a essuyé le baptême du feu. Mais quand on va lire les grilles, finalement, la venue de Jeff Koons a rangé tout le monde.
Alors, vous savez que la langue française est riche de polysémie et le mot critique peut s'entendre sous différentes acceptions, dans différents sens. Il y a aussi la critique pour la critique, c'est-à-dire, et la critique, j'allais dire, que l'on entend la plus spontanément, en tout cas, c'est une partie de la critique qui s'exprime face à l'art contemporain, qui est mêlée d'incompréhension et parfois d'un soupçon d'imposture. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? J'aimerais avoir votre point de vue. Que lorsque l'on nous dit, certains l'expriment avec beaucoup de véhémence, tout ça c'est du grand n'importe quoi, on se fiche magistralement des gens, on se moque du public en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes. Il y a une critique très radicale qui peut s'exprimer sur la connivence également entre les pouvoirs publics, les territoires, on en a parlé, pour finalement engendrer une espèce de système auto-entretenu qui échapperait totalement à l'intérêt du public, là au sens le plus large possible. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Nathalie Boulouche.
Alors je pense que cette critique qui a été faite à la critique d'art, elle est pour moi plutôt un point de vue assez réactionnaire. Je pense que l'art aujourd'hui, il peut s'exprimer de multiples manières. Il n'est pas toujours compréhensible, mais en tout cas, je pense que très rarement, il n'est jamais inutile, en tout cas.
Mais la critique, celle-là, en tout cas, se double aussi d'une réalité économique. Parce que on l'a rapidement évoqué, mais on peut peut-être s'y attarder en cette fin d'émission. Il y a un vrai business autour de tout ça. Il y a des valorisations qui parfois sont astronomiques. Mmh. On regarde œuvres dont la valeur est forcément décorrélée des matériaux qui sont employés pour les créer. Et ça aussi, ça suscite parfois l'incompréhension, voire le rejet.
Là, c'est plus le fait du marché et de l'incidence de la spéculation que de l'action des critiques eux-mêmes.
Tout à fait, mais vous avez peut-être un regard aussi là-dessus et un argument à faire valoir pour expliquer, faire comprendre, désamorcer certaines critiques qui seraient, pour reprendre votre expression, réactionnaires. C'est un silence qui vous réponse.
Alors, non, mais peut-être pour prolonger, bon, il y a toute une dénonciation de l'art contemporain, effectivement, qui est réactionnaire. Je crois que Marine Le Pen, dans son discours dimanche, s'en est pris à l'art contemporain. Enfin, voilà, c'est bon. Tout ça n'est pas très intéressant. Et en même temps, voilà, il y a un débat qui, lui, pour le coup, est quand même plus intéressant. Est-ce que, si on dit les choses un peu brutalement, est-ce que la distance n'est pas plus grande entre, et pas pour des questions de liées au marché de l'art, mais est-ce que la distance objective n'est pas plus grande entre l'homme de la rue et les productions d'art contemporain aujourd'hui qu'il y a un siècle? C'est-à-dire, comment l'art contemporain trouve-t-il sa place dans une société démocratique? La question se pose pour la science, hein. La science n'est pas démocratique, elle est aristocratique. Bon, donc l'art est un univers aristocratique, forcément, par hypothèse, puisqu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres et toutes les œuvres ne se valent pas, etc. Donc voilà, comment on peut essayer d'interroger la modernité en articulant la prétention aristocratique de l'art, ce qui est pas une critique, hein, et la dimension démocratique de notre société, qui se marque aussi par le fait qu'on enseigne l'art à l'école, que tout le monde s'intéresse à l'art, enfin que voilà, la fréquentation des musées n'a jamais aussi bien marché, etc. Donc est-ce qu'il y a pas là une tension quand même?
Si on regarde d'un point de vue historique, je pense qu'il y a toujours eu une disjonction. Je veux dire, vous parliez de l'art du 19e siècle.
Les impressionnistes.
Cette magnifique description de Zola dans L'Assommoir, où la troupe du mariage de Gervaise et Coupeau qui traverse le Louvre et qui regarde le parquet. Donc, je veux dire, l'art a toujours été élitiste et donc il y a toujours eu cette difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, au contraire, alors il y a un art qui reste toujours difficile d'accès, mais certaines pratiques artistiques qui impliquent qu'on appelle des pratiques aussi participatives, qui tissent de plus en plus le lien entre une œuvre et qui impliquent la participation du public pour la création même de l'œuvre, rendent beaucoup plus accessibles les choses. Donc il y a une vraie possibilité, beaucoup plus qu'autrefois en réalité à mon sens, de tisser ce lien Autrefois, la peinture était complètement basée sur des références mythologiques, etc., que très peu de gens pouvaient véritablement comprendre et appréhender.
Est-ce qu'il n'y a pas une part de malentendu autour de ce qu'on pourrait appeler le geste créateur, au fond ? On n'est pas obligé d'apprécier effectivement les grands tableaux de 12 mètres sur 8 du Titien ou de Véronèse, mais voilà, on est obligé de... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème dans l'art contemporain autour de l'idée qu'on n'y voit pas toujours une activité qui prendrait sens comme un travail, comme on dit ?
Oui.
Le travail, c'est intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui est assez horizontal, qui est assez universel. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas artiste, mais je travaille et je peux reconnaître le travail de l'autre. Et il me semble qu'il y a beaucoup de désarroi autour du geste créateur aujourd'hui.
D'où l'idée d'imposture que j'évoquais tout à l'heure, pour certains.
Picasso disait, une œuvre, c'est 99% de sueur, 1% de génie. Je crois que, voilà, ce qui déconcerte aussi, c'est que certains artistes ne mettent plus la notion de travail au cœur de leur pratique.
Tout à fait.
Donc effectivement, les pratiques ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué. Ce qui déconcerte souvent aussi le public, c'est de voir des œuvres où effectivement il y a des choses parfois insignifiantes où on entend souvent ces propos de dire ben je pourrais le faire moi-même ou mon fils pourrait le faire, voilà. Mais ça, c'est aussi des propos qui sont redondants depuis bien longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'on attend d'une œuvre ? Est-ce qu'on attend une œuvre ? Ça peut aussi être simplement un élément qui développe une poésie, qui va faire réfléchir,
qui questionne.
Et le très bel exemple de l'urinoir de Marcel Duchamp, hein, qui n'était que ça, finalement, d'amener...
Le détournement d'un objet du quotidien pour faire réfléchir.
Détourner un objet du quotidien qu'il achète, qui est préfabriqué, mais qui va amener à toute une réflexion sur qu'est-ce que l'œuvre d'art, qu'est-ce qui définit l'œuvre d'art. Et c'est une œuvre extrêmement puissante l'œuvre de Duchamp a généré une réflexion et le travail d'artiste pour tout le reste du XXe siècle et encore aujourd'hui.
Alors Nathalie Boulouche, nous arrivons presque au terme de cette émission. Une dernière question concernant l'actualité des archives de la critique d'art. Donc vous êtes la directrice. Quels sont vos projets dans les mois et peut-être même les années qui viennent, ou en tout cas vos envies ?
Alors, les envies, elles sont très fortes. Depuis la création du groupement d'intérêt scientifique en 2014, qui a permis donc que les collections deviennent propriété de l'Institut national d'histoire de l'art, qu'elles trouvent une assise de fonctionnement au sein de l'université Rennes 2, permet vraiment d'ouvrir des perspectives tout à fait stimulantes. Donc les envies, elles sont très fortes, elles sont vraiment d'ouvrir ce lieu qui est un lieu de ressources, qui est constitué d'une collection d'archives, d'une bibliothèque de référence, mais qui édite aussi une revue...
Critique d'art semestrielle.
Voilà, une revue semestrielle critique d'art qui propose vraiment une lecture critique.
Et qu'on trouve en librairie, en kiosque.
Alors non, qu'on ne trouve que par abonnement. Donc je vous invite à ceux qui souhaiteraient l'acheter,
on va sur votre site,
à aller sur notre site et vous découvrirez aussi du coup le site et beaucoup d'autres choses. Donc les envies, elles sont grandes. C'est ouvrir ces collections encore plus qu'elles ne le sont au public, et pas seulement à celui des chercheurs, mais aussi...
C'est possible, ça, demain ?
Tout public amateur d'art, oui, tout public amateur d'art, rennais, peut venir, en prenant simplement rendez-vous, peut venir aux archives de la critique d'art, consulter les ouvrages, voilà. Donc,
et il y a des pépites à découvrir.
Il y a des pépites, il y a beaucoup de revues spécialisées en art contemporain aussi qui sont là.
Il y a une très belle bibliothèque aussi.
Et c'est unique et ça se passe à Rennes. Nous aurons plaisir à découvrir toutes ces richesses des archives de la critique d'art. Merci beaucoup Nathalie Boulouche d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission Chercheurs en ville. Très bonne suite de programme sur Canal B.